Avec Olivier de Boiscommun à la librairie Bédélire à Tours, bonjour.
Bonjour.
Alors, les impressions sur cette journée de dédicace, à part la fatigue?
La fatigue, oui, parce que c'est la cinquième de la semaine d'affilée. Donc oui, effectivement, un peu fatigué. Non, quatrième. Mais non, très bien, plaisir, il y avait du monde, ça s'est bien passé, gens plutôt sympathiques. Et très bon accueil à la librairie, tout va bien.
Donc vous êtes là pour le premier tome de La Cité de l'Arche qui vient de sortir chez Drugstore, intitulé Ville Lumière. Comment est né ce projet?
Alors ce projet, il est né il y a un bon paquet d'années déjà maintenant. En fait, j'étais étudiant à Paris quand j'ai écrit pour la première fois cette histoire. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle existe. J'ai traîné avant de me jeter dans l'aventure. Elle est née de ma confrontation justement avec la ville dite Lumière, la ville de Paris, et particulièrement avec la manière dont je l'ai découverte, c'est-à-dire à travers les transports en commun et les comportements des Parisiens en troupeau qui sortent des trains, ce genre de choses.
Vous disiez que l'histoire était terminée, qu'il y aurait 4 tomes. Vous vous êtes occupé de tout depuis le début. C'est votre ressenti justement de la ville de Paris, ou il y a eu à moitié une commande en plus?
Ah non, aucune commande. Non, c'est un projet très personnel, même peut-être même le plus personnel, dans le sens où c'est vraiment quelque chose que je mûris depuis longtemps maintenant. Non, aucune commande. Non, c'était un désir. C'est peut-être même ça qui m'a amené à la bande dessinée pour raconter cette histoire.
Vous faites tout seul. C'est plus compliqué ou pas, parce que en discutant avec les personnes qui étaient là pour les dédicaces, vous annonciez 1 an de production, 4 mois pour les couleurs, avec des journées chargées, c'est chaud quand même à faire.
Oui, effectivement, c'est un boulot conséquent. L'élaboration d'une bande dessinée, ça prend une bonne année, en tout cas en ce qui me concerne. L'histoire étant écrite déjà depuis un petit moment, c'est juste le temps qu'il me faut pour réaliser donc en fait les pages, les dessins. Et oui, c'est un travail long, laborieux. On essaye de tout ça pour justement faire en sorte que ça ne se sente pas à la lecture et que ça se lise de manière très fluide et sans avoir conscience du travail qu'il y a derrière.
Comment est-ce que vous présentez la cité de l'Arche? Parce que sur ce premier tome, on découvre le monde, enfin la ville et quelques personnages. Mais l'action n'est pas encore là. En tout cas, on peut soupçonner plein de choses, mais après, on saura peut-être dans le deuxième, mais pour en parler, du coup, vu que c'est juste une amorce, c'est pas forcément facile. Donc, de votre côté, vous le présentez comment?
Effectivement, c'est une amorce, c'est un premier tome d'une série de 4. Donc, par contre, l'action commence dès le début du tome 2. Effectivement, c'est une mise en place. Je présente les personnages, le contexte, les décors. Alors, je peux faire un petit topo, peut-être, du contexte, justement, dans lequel ça se situe. C'est une projection de ce qui pourrait se passer dans notre avenir si on continue un peu à déconner. Voilà, donc c'est d'ailleurs une projection, mais c'est pas vraiment une projection, c'est aussi un constat de ce qu'on vit déjà aujourd'hui, en fait. Donc l'humanité, en fait, a été obligée de se retrancher au sein de leur ville, rejetée par la nature. On sait qu'il s'est passé quelque chose qu'on a nommé le grand fléau. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Quelques explications sont données dans le premier tome, voilà, où les hommes ont été obligés de se retrancher au sein de leur ville, en tout cas de celle-ci, puisque la nature donc est devenue hostile à leur présence. Et voilà, ce qui a eu des conséquences immédiates, comme la surpopulation, la pollution. Voilà, donc pour pouvoir contrôler les natalités, ils ont décidé de séparer les hommes des femmes. Chacun vit d'un côté de la ville, séparé par ce qu'on appelle le grand gouffre. Voilà, et la pollution, donc la construction des murs qu'ils ont construits tout autour de la ville pour se préserver de l'extérieur, a provoqué donc la pollution. Donc on ne voit plus le ciel, et donc les cycles de jour et de nuit sont totalement artificiels, donc avec l'extinction du jour, l'extinction de la nuit. Et donc dans ce contexte, on découvre un jeune garçon qui se rend tous les soirs sur les quais après sa grosse journée de travail de 15 blocs de temps pour voir une jeune fille dont il est amoureux, qu'il n'a jamais rencontré, mais qui vient voir tous les soirs. C'est son petit bonheur quotidien. Il vient l'apercevoir à la longue vue, il l'attend et prend le risque de rentrer un peu trop tard chez lui, voilà, pour pouvoir la voir chaque jour.
Dans un monde assez organisé, structuré, peut-être dictatorial, enfin, on ne sait pas trop, mais le grand présideur, c'est quand même moyen, a priori. Il y a tous les petits robots qui surveillent. Quand on ne travaille pas bien, on se prend une petite décharge électrique, etc. Et avec ce côté un peu sombre et dur de la vie, il y a cette histoire d'amour naissante qui contrebalance. C'était une volonté d'opposition entre les deux.
J'ai toujours travaillé sur les contrastes. Je mets toujours en opposition des choses plutôt poétiques avec des univers assez sombres. Voilà, je trouve que ça permet de chaque chose mettre en valeur, de le confronter à son opposé. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve ici effectivement. J'ai parlé de la mort en vert avec un personnage très positif de clown. Voilà, donc j'aime bien ces oppositions. Là, il se trouve que effectivement c'est un contexte assez sordide, sinistre, très oppressant. Voilà, et effectivement il y a des choses comme cette histoire d'amour naissante ou comme la légende, cette rumeur qui a pris de l'ampleur, qui circule au sein de la ville, qui dit qu'un jour le passeur viendra pour les ramener à la lumière. Voilà.
Puis il y a d'autres protagonistes qui vivent en dessous du sol.
Alors effectivement, cette société totalitaire a poussé un certain nombre d'individus à se retrancher au sein des catacombes dans les sous-sols de la ville. Voilà, donc là c'est organisé une sorte d'opposition au gouvernement, un gouvernement qui a été en fait renversé par un homme nommé le Présideur, voilà, qui a pris le pouvoir et qui est un véritable tyran et qui impose l'oppression sur toute la population.
Au niveau de votre technique de travail, comment vous travaillez? Vous êtes en traditionnel?
C'est en traditionnel, c'est ce qu'on appelle une mise en couleur sur bleu, donc c'est une des techniques possibles avec la couleur directe ou maintenant la mise en couleur informatique pour pouvoir réaliser donc un album de bande dessinée. C'est la technique que j'ai choisie, mais je reste toujours sur le traditionnel. J'ai besoin de passer mes journées avec mes doigts dans la patouille.
C'est de l'aquarelle?
Alors oui, sur celui-ci, c'est des encres aquarelles en fait. Il y a des encres aquarelles et des encres acryliques aussi. Donc, mais effectivement, pour celui-ci, ça n'a pas toujours été le cas, mais pour celui-ci, ce n'est que des encres.
Le choix.
Je sais pas, j'aime bien changer de technique en fait. Enfin, d'ailleurs, je change pas vraiment de technique. Il se trouve que c'est les outils que j'ai utilisés là. Je travaille un peu toujours de la même manière, quels que soient les supports, quels que soient les outils. Je vais toujours et je tends toujours vers la même chose.
Le personnage que vous préférez dessiner?
Le personnage que je préfère dessiner, mais en fait, je suis très attaché à plusieurs de ces personnages et je veux pas en mettre un en valeur en particulier par-dessus, par rapport aux autres. Ce serait encore trop tôt dans l'histoire. Voilà, donc je vais pas répondre. Je pourrais dire, par exemple, que le personnage de la taupe, qui est le chef du groupe armé des rebelles nommés les infidèles, que je prends plaisir à dessiner. Ouais. Mais comme le personnage d'Escar, qui est le père adoptif d'Anathael, le personnage qu'on voit tout au long de l'album, qu'on suit de manière la plus présente sur cet album-ci, en tout cas, voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner et à faire vivre, parce que c'est plus les personnalités qui font que ces personnages existent plutôt que leur trait physique.
Et le personnage qui vous est le plus demandé en dédicace, est-ce qu'il y en a un qui se détache?
Eh bien, non, en fait. Alors il y en a qui reviennent moins souvent, comme des personnages très secondaires. Mais il y a une telle multitude de personnages dans cette histoire qu'en fait, ils sont assez régulièrement tous demandés.
Vous avez déjà une idée de la date de sortie du deuxième? Enfin, le premier vient de sortir, mais vous pensez que le délai d'un an pour chaque tome pourra être tenu ou...
Alors le délai d'un an ne peut pas être tenu dans le sens où je mets moi un an pour réaliser un album, donc du coup ça décale toujours un petit peu la sortie du suivant. Ceci dit, j'ai terminé celui-ci déjà depuis un petit moment et donc on a retardé un petit peu la sortie. J'ai déjà bien avancé sur le tome 2, mais avec la grosse tournée de dédicaces que je suis en train de faire, je vais prendre un peu de retard. Normalement la sortie du second tome, j'espère que c'est encore possible, pourra sortir pour avril 2011, c'est-à-dire exactement un an après la sortie du premier.
Vous avez en tête vos prochaines dates de dédicace?
Oui, à peu près. Alors, je pourrais dire que je suis à Coquel demain, dimanche. Ensuite, j'ai une petite pause de 2 jours avant de repartir pour Lyon, librairie Expérience, Grenoble, la librairie Momie Folie. Ensuite, je reviens encore quelques jours pour repartir sur la tournée sud, où il y a, je crois, prévu Montpellier, Toulouse, Pau, Bordeaux. Voilà, j'en oublie sûrement. Mais voilà.
Vous avez un blog, un site internet sur lequel on retrouve vos dates de dédicace ou votre actualité?
Non, il y a ma page Facebook sur laquelle tout est noté et où il est possible d'aller.
Quelque chose que vous souhaiteriez nous dire particulièrement sur cette BD?
Non, pas grand chose, je vous laisse la découvrir par vous-même en espérant que vous y preniez du plaisir.
Pour terminer nos interviews, on a une question qui est celle-ci. Si on vous donnait le choix entre la vie éternelle et le don d'ubiquité, qu'est-ce que vous prendriez?
Alors, la vie éternelle me branche bien, mais je voudrais pouvoir quand même choisir le moment pour disparaître. Ça me plairait bien d'avoir un peu plus de temps. Je ne suis pas sûr que l'éternité me plaise vraiment, mais d'avoir un peu plus de temps, ça ne me déplairait pas. Ouais.
D'accord, ben merci.
Merci à vous.